13h, à votre santé.
À votre santé.
Philippe Robichon sur Beurre FM.
Sur Beurre FM.
Allez, à votre santé tous les jours entre midi et 13h sur Beurre FM. Je vous rappelle qu'on prend soin de votre forme. Voilà, AVS, à votre santé. Et tous les mardis, eh bien, c'est Nadia El Bouga qui est avec nous. Bonjour Nadia.
Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous.
Sage-femme et sexologue clinicienne, j'aime cette ambiance dans mon émission avec du stress. Une minute avant, on ne sait pas si ça va fonctionner. Ça fait du bien, hein, Nadia. Là, on sait qu'on est en direct comme ça.
Exactement, voilà. C'est-à-dire qu'on s'adapte.
C'est-à-dire que tout va bien jusqu'au moment où rien ne va plus.
Mais tout va très bien.
Bon, l'événement que vous attendiez tous, c'est que Nadia sera au salon au Maghreb du Livre.
Au Maghreb Orient du Livre, tout à fait.
Au Maghreb Orient, parce que ça a changé maintenant. C'est Maghreb Orient.
Voilà.
C'est élargi. Bon, Maghreb Orient du Livre.
C'est ça, tout
à fait. Vous êtes là dimanche.
Le dimanche, effectivement, dimanche 4 février.
Oui. Alors, il y a deux choses. Hein. Vous signez, vous dédicacerez votre livre, Nadia ?
Oui, en fait, en fin de matinée, il y aura un café débat, donc sur... la place du patriarcat.
Oh là là, et vous invitez-vous pour la... Oh là là.
Entre autres, il n'y a pas que moi. Effectivement, il n'y a pas que moi.
Ça va être bien.
Oui, c'est un sujet
passionnant.
Oui, éminemment important. Et effectivement, voilà, j'aurai d'autres personnes en ma compagnie pour que l'on puisse échanger sur le sujet.
Bien.
Et puis en après-midi, effectivement, il y aura une séquence dédicace au stand
qui est important parce que si vous suivez Nadia depuis quelques années, que vous avez lu son livre ou peut-être que vous voulez la rencontrer, c'est le moment parce que le Maghreb Orient du Livre, ça sert aussi à ça. Ce sont des auteurs, les auteurs que vous entendez toute l'année, qui sont là avec vous et qui peuvent avoir un peu le temps d'échanger. Donc c'est aussi l'occasion de mettre un visage sur les voix, sur ce que vous lisez et que vous écoutez. Donc ça c'est important, Nadia. Donc rendez-vous dimanche après-midi.
Voilà, dimanche matin pour le débat, dimanche matin en fin de matinée et dimanche après-midi pour les dédicaces, tout à fait.
Je penserai bien à vous.
Et je serai ravie de rencontrer les auditeurs et les auditrices.
Bien, nous avons réinvité aujourd'hui Sabrina de Busca. Bonjour Sabrina.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bonjour Sabrina.
Bonjour Nadia.
Voilà, vous êtes journaliste, spécialiste de sujets santé. Vous avez créé un site sur la santé, ça se saurait.fr, et vous êtes auteur d'un livre qui fait beaucoup, beaucoup parler de lui, qui s'appelle « J'arrête la pilule », l'édition c'est « Les liens qui libèrent ». Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une génération no pilule, Nadia ?
Exactement.
Oui.
Oui. On peut parler d'une génération. Alors, on peut parler d'une génération no pilule. Une génération, même, je rajouterais. Et d'ailleurs, Sabrina de Busca en parle très bien sur ces deux sites. Qu'on va citer. Hein, ça se saurait. Et j'arrête la pilule. Elle parle d'une génération no pilule féministe. Parce qu'effectivement, certaines femmes maintenant, et elles sont de plus en plus nombreuses. Considère que il y a une nécessité de ne plus suivre bêtement ce qui a été recommandé durant des années, à savoir le tout hormonal, et que en fait il y a visiblement et moi je le palpe au sein de mon cabinet en tant que praticienne un questionnement sur la prise de pouvoir sur son propre corps, c'est-à-dire pouvoir comprendre déjà la base de la base, comprendre comment fonctionne son corps, faire connaissance avec son corps et pouvoir gérer soit la contraception, soit le désir de conception. Donc oui, on peut parler de génération no pilule aujourd'hui.
Alors, si nous avons souhaité vous réinviter, Sabrina, c'est parce qu'effectivement, il y a vraiment cette tendance, c'est même peut-être plus qu'une tendance de femmes qui veulent ne plus prendre la pilule, mais qu'aussi, vous avez constaté, Nadia, au cabinet, qu'il fallait pas faire n'importe quoi et que il fallait adapter une contraception qui fonctionne. Sinon, on se retrouve enceinte.
Oui, c'est ça. C'est bien le problème, en fait, c'est que cette génération no pilule, moi, je la vois un peu comme un retour de boomerang. C'est-à-dire qu'à contrario de ce qu'on pense, ce sont pas des bobos écolos qui arrêtent la pilule pour plein de raisons. Ce sont des femmes souvent qui ont essayé la pilule et qui n'en aiment pas les effets secondaires et qui sont à la recherche de nouvelles solutions. Et je crois qu'on n'a pas vraiment vu venir ça en France et même dans le monde entier. On pensait que la pilule, c'était un petit peu la marche finale de la contraception. On avait trouvé quelque chose de bien et on s'arrêtait là et on cherchait pas mieux. Or, les femmes aujourd'hui sont de plus en plus féministes. Ça, c'est ma vision du sujet. Et du coup, on a toute une génération de femmes qui nous disent « Ah ben non, nous, on n'est pas prêts à accepter les effets secondaires d'un médicament comme les générations de femmes précédentes qui n'avaient pas les mêmes qui n'avaient pas les mêmes risques, qui n'avaient pas la même vision des choses. » Donc, du coup, on découvre tout ça et c'est ce dont je parlais avec Nadia hors antenne. Ces femmes-là, elles ont besoin d'être accompagnées. Il ne faut pas les laisser tomber. Or, aujourd'hui, moi, mon sondage auprès de 3600 femmes réalisé durant l'enquête montre que malheureusement, ces femmes, on les laisse un peu tomber, y compris les professionnels de santé, et c'est très malheureux. C'est vraiment dommage. On ne sait pas quoi leur proposer en hormones, donc on leur dit « débrouillez-vous ». Où elle se retrouve toute seule et c'est vraiment dommage.
Oui, effectivement, je le vois sur le terrain et en échangeant avec mes collègues sages-femmes et même des collègues gynéco, il y a un réel ras-le-bol général face aux effets secondaires des moyens contraceptifs
mais
hormonaux.
Ils existaient avant, Nadia, c'est pas nouveau.
Oui, mais c'était mieux accepté.
Exactement.
C'est ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi ces effets qui ont été acceptés pendant 30 ans ou 40 ans, aujourd'hui ne le sont plus.
Parce que les femmes sont plus libres. Enfin, moi, je me permets d'aller dire, je pense.
Oui, tout à fait. Il y a une prise de conscience, qui est palpable de plus en plus, et quelles que soient les catégories sociales. Donc, c'est important ce que dit Sabrina. On n'est pas dans le CSP++ de la bobo du 7e là, ou de je sais pas quel arrondissement qui a une lubie écolo-zen. Non, là vraiment, moi, j'exerce à Garges-lès-Gonesse. On n'est pas du tout dans ce type-là de population. Et je vous assure que les femmes, elles en ont ras-le-bol de ne plus être entendues dans les symptômes qu'elles vivent quotidiennement. On en parlera, la libido qui vient quand même en tête, les migraines, les douleurs mammaires, les variations d'humeur et j'en passe, les pertes de cheveux, la prise de poids, l'acné. Enfin, les femmes maintenant disent stop. Maintenant, je veux déjà... Alors, elle dit stop. Tout n'arrête pas du jour au lendemain. Mais elle commence, en tout cas sérieusement, à nous interpeller, nous, professionnels de la santé, en disant maintenant, stop. Vous n'avez plus le monopole de nos décisions. Maintenant, on veut choisir. Et pour pouvoir choisir en connaissance de cause, on veut comprendre.
Et Philippe, c'est comme pour la charge mentale sur le ménage, les tâches ménagères. Jusqu'à maintenant, les femmes acceptaient ça, personne n'en parlait, on avait l'impression que l'égalité était à peu près conquise, que tout allait bien. Moi, j'utilise un peu, si vous voulez, l'image de l'arbre et du bûcheron. Les anciennes féministes ont coupé les grosses branches du patriarcat, de l'oppression des femmes. Nous, aujourd'hui, on est en train de couper des branches plus petites, qui étaient plus invisibilisées, mais qui sont toutefois là. Et c'est la même chose avec la pilule.
Bien, la pilule, tout le monde croit savoir ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est précisément? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, Nadia ou Sabrina?
Alors, Nadia, je vous laisse faire.
Ok, donc il n'y a pas de souci.
Donc c'est quoi la pilule en fait finalement? Parce que tout le monde croit savoir ce que c'est la pilule.
Oui, alors on ne parle pas que de la pilule aujourd'hui. Hein. On parle vraiment des contraceptifs hormonaux. Alors,
y compris les stérilets, les implants.
Alors ça, on va en parler dans un autre temps. Mais là, quand on parle de contraceptifs hormonaux, c'est pas uniquement la pilule que l'on prend par voie orale. Hein. Ça peut être l'implant, ça peut être l'anneau, ça peut être le stérilet hormonal également. Donc c'est tout contraceptif qui distille en fait des hormones synthétiques dans l'organisme. Alors Sabrina en parle très bien dans le livre, vraiment son livre est accessible à tout le monde. Elle explique, il y a un chapitre où elle explique justement le fonctionnement de la pilule, parce que très peu de femmes savent comment comprennent ou savent expliquer comment les hormones agissent dans l'organisme. Vous savez, on a les fameux œstrogènes et la progestérone qui sont là et qui participent au cycle menstruel des femmes. On va pas entrer dans le détail aujourd'hui, mais cet équilibre entre les œstrogènes et la progestérone est important dans le fonctionnement hormonal naturel celle des femmes. Or, lorsque on ajoute un contraceptif ou tout moyen hormonal synthétique, on se retrouve en fait avec des perturbations hormonales qui envoient des informations à l'organisme, notamment entre autres quand il y a des œstrogènes, un arrêt du fonctionnement des ovaires, enfin ça les met au repos. Et donc du coup, ça, Sabrina en parle bien dans son bouquin. Vous avez l'organisme des femmes qui est en fait comme arrêté à un premier stade de ce premier trimestre de grossesse. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau reçoit l'information que donc comme les ovaires sont stoppés, qu'il y a entre guillemets une grossesse chimiquement parlant en fait. Ce qui fait que vous avez tous les désagréments. Il est leurré, exactement.
C'est un leurre hormonal, c'est exactement ça, la pilule.
C'est un leurre hormonal.
Exactement.
Un perturbateur endocrinien qui vient faire croire au corps que la femme est soit en tout début de grossesse, soit en deuxième partie de cycle. Ça correspond à peu près ça au niveau des doses, mais ça correspond plus à un début de grossesse. Et donc, du coup, le cerveau arrête l'ovulation.
Mais là, vous employez l'expression perturbateur endocrinien.
Mais parce que c'est précisément la façon dont fonctionne la pilule, c'est-à-dire que souvent on va penser perturbateur endocrinien, pesticide.
Voilà.
Oui, mais pas que. La pilule, par exemple, c'est un perturbateur endocrinien, c'est-à-dire une chimie de synthèse ou naturelle qui vient perturber, volontairement ou non, un fonctionnement naturellement sain du corps.
Tout à fait. Et donc, ce n'est pas anodin, et d'ailleurs, on le verra par la suite, ces ajouts, en fait, hormonaux et donc chimiques, ont des conséquences sur le fonctionnement donc naturel du corps, c'est ce qu'on a dit, et notamment sur les hormones sexuelles. Donc, quand les femmes, depuis des années, nous disent qu'elles ont une baisse de désir, voire même une absence de désir, donc on emploie et on entend souvent le terme de libido, mais c'est pas dans leur tête. C'est pas que dans leur tête, et j'ai envie de dire tout court, c'est pas dans leur tête, c'est une réalité, parce que ces hormones viennent squeezer en fait l'action de la testostérone. On en a parlé la semaine dernière, la testostérone n'existe pas que chez les hommes, il y en a chez les femmes, c'est une hormone qui participe justement à la libido, au désir sexuel.
Et donc, c'est l'hormone principale même du désir, on peut le dire, chez l'homme comme chez la femme.
Exactement, et donc lorsqu'on vient squeezer le fonctionnement de cette hormone-là, forcément on impacte le désir.
Mais comment est-ce qu'on peut la mesurer, cette baisse de libido? Elle est toute petite, elle est grande, elle est importante, enfin je sais pas.
Alors, ça, c'est très important ce que vous dites là, Philippe, parce que ça aussi, il faut sortir du tout mesurable, dans le sens où normalement, enfin bon sang, on nous apprend, enfin moi j'ai appris dans mon cursus depuis toujours qu'on ne remettait pas en cause la parole des patients et des patientes. À partir du moment où
il y a
une femme,
un symptôme,
que ce soit petit, moyen, grand, c'est quel impact ça a dans sa vie? Si elle vous dit qu'elle peut plus vivre comme ça, que c'est plus viable pour elle, vivable pour elle, pour son couple, pour son compagnon, eh bien on prend ça en compte. On n'a pas.
Vous êtes en train de nous dire.
En lui disant,
ce que vous êtes en train de dire, Nadia, c'est que il faut pas minimiser finalement un symptôme, même s'il est tout petit.
Il n'y a pas de petits symptômes.
En 10 ans, faut faire avec. Vous faites avec parce que c'est pas beaucoup.
Exactement. Il n'y a pas de petits symptômes. Et pendant des années, je le dis, je me mets dans l'eau, d'ailleurs, en tant que professionnelle de santé. On minimise ce que nous disent nos patients. On a été formaté comme ça. Ça suffit. Il faut arrêter ça maintenant.
Pour compléter ce que dit Nadia, moi, par exemple, dans le cadre de mon enquête, Philippe, je me suis un peu posé la même question que vous et j'ai voulu, du coup, donner la parole aux femmes pour changer un peu des études scientifiques, parce que malheureusement, il faut comprendre que les études scientifiques, pour la dépression ou la baisse de libido, c'est-à-dire des choses qui sont impalpables physiquement, qui sont dues qu'à l'objectivité du patient, on a un peu du mal à l'appréhender au niveau chiffres dans les études. Donc moi, j'ai posé à 3616 femmes 30 questions autour de la pilule, et parmi ces questions, est-ce que quand vous avez pris la pilule, vous avez ressenti des effets secondaires négatifs? Oui, à 70%. Et si oui, quels effets négatifs? Le premier effet, à ma grande surprise, qui est apparu, c'est la baisse de libido. Donc je ne saurais peut-être pas vous dire au niveau de l'intensité, mais au niveau de la fréquence, et apparemment, c'est le premier, enfin moi sur l'échantillon de femmes que j'ai interrogé, c'était le premier effet secondaire. J'en étais assez surprise. Et il y a une femme qui m'a donné cette phrase en témoignage, qui m'a dit, on parle d'effet bénin de la pilule en parlant de la baisse de libido, mais quand ça mène au divorce, ce n'est pas quelque chose de bénin.
Oui, oui, c'est très important ce que dit Sabrina là, parce qu'effectivement, durant des années, on a minimisé en fait ces questionnements, ce questionnement des femmes et d'ailleurs des hommes aussi, hein, en leur faisant croire que c'est dans leur tête ou en insistant sur le fait que c'était pas grave, que ça allait passer, que c'était une question d'adaptation, qu'il fallait attendre un certain temps pour que le corps s'habitue à cet apport hormonal. Enfin voilà, et j'en passe et des meilleurs. Mais là, on ne peut plus faire comme si, il n'y avait pas de réelles conséquences biochimiques. Et c'est très important parce que justement, dans son bouquin, Sabrina, elle fait vraiment un travail extraordinaire. Et je fais pas la Marseillaise là. C'est réellement, son bouquin est documenté. Il se base sur donc elle a consulté plusieurs experts, hein, des personnes qui n'ont aucun intérêt avec aucun laboratoire. Elle a fait des études, des recherches. Donc elle a décortiqué plusieurs études qu'elle nous rend accessibles ici. C'est-à-dire que vraiment tout un chacun, même si on n'est pas du domaine scientifique ou médical, a accès facilement à ces explications. Et surtout ce que je souhaite vraiment mettre le point comme ça, on est dans l'introduction claire et nette. On n'est pas là pour rentrer dans un débat idéologique concernant la pilule. On est d'accord, et on en parlera par la suite, qu'il y a eu une certaine révolution sexuelle.
Un avant et un après pilule.
Exactement, bon. Et qui a permis beaucoup de changements concernant l'émancipation des femmes. En revanche, maintenant, on est dans un autre questionnement qui est beaucoup plus subtil et même, je dirais, de l'ordre de la santé publique qu'on ne peut pas négliger aujourd'hui.
Bien. En tout cas, Sabrina, c'est une enquête que vous avez réalisée. Votre livre s'appelle « J'arrête la pilule » aux éditions Les Liens qui Libèrent. On verra tout à l'heure rapidement les autres effets secondaires de la pilule. Et puis, une fois qu'on a dit ça, quelles sont les solutions naturelles, plus naturelles, que vous proposez aux femmes qui pourront d'ailleurs intervenir au 01 53 48 3000.
Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Arrêt de la contraception hormonale, régression ou véritable révolution sexuelle. Notre invitée Nadia, c'est Sabrina Debusca, qui est journaliste et qui a mené une enquête. Le fruit de cette enquête se retrouve dans un livre qui s'appelle « J'arrête la pilule » aux éditions Les Liens qui Libèrent. Alors, on était en train d'évoquer les effets secondaires de la pilule. Donc, pour expliquer aux gens comment vous avez travaillé, c'est un questionnaire que vous avez posé à des femmes, hein, Sabrina.
Deux choses. Ce questionnaire, c'est pas du tout l'aspect scientifique de mon enquête. Donc j'ai fait une année d'enquête, j'ai lu toutes les études réalisées ces 25 dernières années sur la pilule et contraception hormonale, c'est un gros travail, et cette enquête elle est uniquement là pour donner la parole aux femmes. Donc je ne me suis pas du tout basée sur cette enquête pour savoir quels étaient les effets secondaires de la pilule, mais pour savoir comment les femmes, elles, le ressentaient. Donc si on parle des effets secondaires prouvés scientifiquement de la pilule, ce qui sort de mon enquête, c'est qu'en gros, l'absorption chronique quotidienne d'hormones synthétiques entraîne des carences en vitamines et minéraux essentiels qui expliquent les effets secondaires de la pilule, les bénins comme les plus graves. Ça fait des modifications dans le sang, ça fait, comme le disait Nadia tout à l'heure, en fait, c'est, voilà, pour vous comparer le bisphénol A qu'on interdit, œstrogène synthétique interdit dans les biberons et les boîtes de conserve, c'est 1000 fois moins puissant que l'œstrogène de la pilule que prennent des millions de femmes chaque année en France au quotidien. Donc ces carences en vitamines et minéraux dues aux hormones synthétiques entraîne des problèmes de santé qui vont se développer plus ou moins différemment selon les femmes. Parmi les risques qu'on peut chiffrer, que moi en tout cas j'ai chiffré à l'heure actuelle, le premier risque c'est celui du cancer du sein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, selon une étude parue en décembre dernier chez les Danois, réalisée pendant 11 ans sur 1,8 million de femmes, donc c'est la nouvelle étude de référence en la matière, c'est une étude sans conflit d'intérêts, ils nous disent que il y aura une femme sur 7690 qui va avoir un cancer du sein qu'elle n'aurait pas eu sans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme sur 8000 qui prend une contraception hormonale déclenchera un cancer du sein qu'elle n'aurait pas eu si elle n'avait pas utilisé de contraception hormonale. Une sur 8000, ce qui nous donne en France pour le nombre de femmes qui prennent la pilule, chaque année, 633 cas de cancer du sein qui seraient attribuables aux contraceptions hormonales. Si on applique un taux de décès en hypothèse vraiment basse, décès cancer du sein à 10%, ça ferait que chaque année, on a 63 potentiels décès de femmes, sous contraception hormonale en France. Si on ajoute un taux de décès de 20% qui est plus proche de la réalité, on est à 127 décès par an en France. Si on ajoute à ça les 20 décès par an d'accidents thromboemboliques, là c'est les cas comme Marion Lara, vous savez, d'AVC, d'embolie pulmonaire, etc. Là on est à du coup un peu moins de 100 femmes par an qui décèdent à cause de leur contraception hormonale. Donc ça c'est ce qu'on peut chiffrer. Tout le reste, il y a d'autres problèmes de santé qui sont dus à la pilule qu'on ne peut pas chiffrer parce que les études ne précisent pas ce risque. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui en 2018.
Alors, vous avez employé, Sabrina, l'expression perturbateur endocrinien. Je peux savoir qui le reconnaît aujourd'hui que c'est un perturbateur endocrinien, la pilule?
En fait, c'est pas, comme je vous l'expliquais en septembre, c'est pas une question, c'est en fait, c'est la pilule a été inventée pour être un perturbateur endocrinien. Un perturbateur endocrinien, c'est une hormone synthétique ou naturelle qu'on vient mettre dans le corps de façon volontaire ou pas et qui va perturber le fonctionnement normal du corps. Donc c'est exactement la façon dont est inventée la pilule. C'est juste qu'en fait on ne le disait pas parce qu'on ne le précise pas, parce que si vous voulez c'est pas négatif la pilule en soi. Et aujourd'hui le mot perturbateur endocrinien, on voit ça comme quelque chose de négatif, mais dans le cas de la pilule ça a été fait volontairement. Mais aujourd'hui les femmes elles sont en train de dire oui, mais nous on n'est pas forcément d'accord avec cette idée de base de perturber le fonctionnement naturel de notre corps. C'est ça la question.
En fait ce que nous dit Sabrina de Busca clairement, c'est que on peut pas se dire actuellement une société évoluée si on ne prend pas en compte en fait les situations de santé publique qu'elle a cité précédemment. C'est simplement ça. C'est absolument pas c'est pas un débat idéologique là. C'est juste une lanceuse d'alerte qui vient se questionner sur la réelle liberté des femmes et des hommes. D'ailleurs, et des couples, hein, parce que c'est une question de couple, hein, la contraception, faut pas l'oublier, hein, on l'enferme uniquement sur des questions, dans une question féminine, c'est une question aussi conjugale. Donc les hommes sont aussi concernés par cette problématique-là. Donc ce qu'elle dit, c'est tout simplement, on ne peut pas continuer à porter les œillères ça fait 60 ans qu'on porte ces œillères-là. Il faut à un moment donné élargir sa visibilité pour permettre aux femmes de faire un choix en connaissance de cause. C'est ça. C'est pas un débat pour remettre en cause la contraception. Soyons bien clairs, parce que là, je vois profiler déjà des messages à droite, à gauche, hein, ça commence déjà, pour vous dire, soyons clairs, fini la langue de bois. C'est juste ça. C'est dire que enfin, maintenant, on peut avoir toutes les données en connaissance de cause. Après, une patiente qui vous dira oui, ok, je suis au courant que j'ai tel, qu'il y aura probablement tel effet secondaire ou que je l'ai vu. Il y a ci, il y a ça, mais bon, j'accepte. Soit. Ok, mais vous êtes au courant. Maintenant, c'est pas ce qui se passe à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, en tant que prescripteur de contraceptifs, on a la main facile sur les contraceptions hormonales. C'est-à-dire que vous prescrivez une pilule en deux temps de mouvement. Ça prend quelques minutes. C'est fait. On y associe un bilan sanguin parce que quand on a une conscience professionnelle. Et puis voilà, c'est parti mon kiki. Mais à aucun moment on a réellement pris le temps de développer aux patientes les différentes méthodes pour qu'elles prennent son choix en connaissance de cause.
Et c'est vraiment, moi je suis, si je peux me permettre très rapidement, ce qu'il faut comprendre en fait aujourd'hui, c'est que du coup en prenant une contraception hormonale, les femmes, elles affrontent donc les risques de cancer, d'AVC, d'embolie dont je vous parlais, et que en fait le choix, on parle de leur choix, mais leur choix il n'est pas réel, puisque vu que l'offre contraceptive actuelle est assez pauvre hors hormones et au niveau masculin, mais du coup les femmes, sous pression de la société, du médecin, du conjoint, elles n'ont pas vraiment le choix en fait de prendre des contraceptions, et il y en a beaucoup qui disent, moi les hormones, si je pourrais m'en passer, ça serait mieux. Donc en fait le combat féministe qui joue aujourd'hui, c'est d'élargir l'horizon des femmes, de leur offrir des choix plus larges en développant des contraceptions qui n'aient pas ces risques-là. C'est juste ça la question. C'est pas faut-il arrêter la pilule ? Pas du tout. La question, c'est pourquoi en 60 ans, notre société n'a pas développé mieux ?
D'ailleurs, c'est pas un débat de 2017-2018. Hein. Quand on regarde les derniers chiffres de l'INED, hein, l'Institut National des Études Démographiques, on constate que le nombre de femmes qui prenaient la pilule entre 2010 et 2013 a baissé de près de 8%, avait baissé de près de 8%. Donc vous voyez déjà, il y avait un questionnement qui se mettait déjà en marche. Il faut savoir que les scandales aussi hein, des pilules, rappelez-vous, de troisième et quatrième génération, avec ce que les conséquences sur la santé des femmes qu'a cité et nommé Sabrina, notamment les AVC, hein, les risques thromboemboliques. Eh bien, c'est des affaires qui ont éclaté en 2012. Hein. Eh bien, là, il y a eu une prise de conscience de pas mal de femmes. Hein. D'ailleurs, on l'a vu hein, durant cette période-là, en consultation, hein, les femmes ne savaient même pas de quoi était constituée leur pilule, si c'était une combinée, pas combinée, si c'était, c'est-à-dire une pilule œstroprogestative ou uniquement progestative, comment ça fonctionnait. Et là, elles commençaient à se questionner en disant, mais au fait, ma pilule, elle est de quelle génération? Ça se passe comment? Enfin, vous pouvez m'expliquer d'ailleurs comment ça fonctionne. Ça a commencé à se réveiller à ce moment-là.
Alors, est-ce que pour celles qui nous écoutent, il existe donc des alternatives, des contraceptions qui sont aussi efficaces et sans hormones?
Moi, je l'explique dans mon livre, j'ai essayé de pas, mais moi, je suis pas médecin, donc mon rôle, entre guillemets, s'arrête là, et c'est là que je passe le relais à des sages-femmes ou aux gynécos comme Nadia. Moi, j'ai recensé à la fin de mon livre, j'ai fait un tableau, une annexe des contraceptions, qui classe toutes les contraceptions disponibles actuellement pour hommes comme pour femmes, avec ou sans hormones en 2018, par efficacité. Je l'ai fait parce que, aujourd'hui, quand on voit ce genre de tableau, on n'y a jamais les méthodes naturelles dedans. Et les méthodes naturelles sont souvent classées sous la même catégorie que le retrait ou que la méthode Ogino, et du coup, on a l'impression qu'elles ne sont pas efficaces.
Alors Sabrina, qu'est-ce qu'on appelle une méthode dite naturelle ?
Alors, une méthode naturelle, en fait, c'est juste un moyen de repérer quand est-ce que la femme ovule pour soit s'abstenir de rapports sexuels, soit se protéger avec un préservatif à ce moment-là. Et donc du coup, ça permet à la femme, tout le reste, par exemple, moi, je témoigne, j'ai aucun problème avec ça. Moi, j'ai arrêté la pilule, j'ai pas pu avoir d'autres contraceptions, donc j'ai été obligée de me mettre à ces méthodes parce que j'avais plus le choix. Et du coup, eh bien, mon compagnon étant gêné par le préservatif, je me suis dit, tiens, je vais essayer de trouver un moyen, comme je savais que j'étais pas fertile tout le mois, et ce moyen, c'est sans les méthodes naturelles. Donc aujourd'hui, avec ma méthode naturelle, je sais quand je dois me protéger, quand je ne dois pas protéger. Du coup, plutôt que de mettre le préservatif 30 jours par mois, je ne le mets plus que 10 à 12 jours par mois, ce qui est un énorme gain au niveau de ma sexualité, du confort, et du coup, on partage la contraception tous les deux, et personne ne prend de risque pour sa santé. Voilà aujourd'hui à quoi peuvent servir les méthodes naturelles pour des femmes modernes qui arrêteraient la pilule.
C'est important parce que ces méthodes, en fait, effectivement, elles sont très souvent dénigrées par le corps médical auquel j'appartiens, parce que, pour de bonnes raisons, hein, dans le sens où il y a cette peur de la grossesse non désirée, et donc des recours non désirés non plus à l'IVG, ou en tout cas, non-information correcte. Dans la réalité, c'est pas ce qu'on voit. Dans la réalité, on s'aperçoit qu'en fait, même le corps médical ne connaît pas ces contraceptions naturelles. On met en fait toutes les méthodes, parce qu'il y en a beaucoup, sur le même plan. Et en réalité, ce que fait Sabrina dans son livre, c'est-à-dire que elle ressort, donc effectivement à la fin du livre, elle classifie donc avec les chiffres donnés par l'OMS, hein, notamment concernant l'efficacité des moyens contraceptifs, qu'ils soient hormonaux ou non, elle classifie toutes ces méthodes, et le ce qui est important, en fait, c'est que justement elle met en lumière deux méthodes naturelles, notamment la symptothermie dont on va parler et la méthode Creighton, qui, en fait, moi en tant que sexologue, ne peuvent que m'interpeller, parce qu'en fait, avec ces méthodes-là, qu'est-ce que vous dites aux femmes? Vous dites aux femmes, ok, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez faire connaissance avec votre corps. Vous allez enfin redécouvrir une zone que vous connaissez absolument pas, et que peut-être même votre compagnon connaît mieux que vous. C'est votre vagin. C'est-à-dire que très, très 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 souvent, les femmes n'ont jamais exploré leur vagin. Donc elles ne savent pas comment il est fait de l'intérieur, elles ne savent pas reconnaître leur perte, hein, savoir la différence entre des pertes physiologiques ou des pertes moins physiologiques, on va dire. Elles ne se sont jamais examinées au niveau du col. Bref, elles ne savent pas identifier comment leur corps évolue de façon naturelle. Pourquoi, entre autres, parce que très souvent, et moi ça me questionne en tant que sexologue, de plus en plus maintenant, nous avons nos jeunes filles qui sont sous contraceptif très tôt. Ça, on a déjà fait une émission sur l'endométriose, des jeunes qui sont sous contraceptif tôt pour
les douleurs, justement.
Pour remédier au syndrome prémenstruel. Et on se retrouve, en fait, avec des filles qui ne sont pas capables de reconnaître, par exemple, tout simplement, un désir sexuel. Parce qu'en fait, comme elles sont sous hormones très très tôt, ben elles n'ont jamais pu ressentir, pour beaucoup, hein, ce que c'est que la montée d'une libido, des sensations, qu'est-ce que ça procure au niveau physiologique, les variations dans l'excitation sexuelle, ça a un impact. Et ça, c'est pas anodin. Et moi, en tant que sexologue, ça me questionne.
C'est ce que raconte Catherine Solano, que je cite dans le livre, donc autre sexologue assez connue, qui dit que pour elle, on est en train de sacrifier toute une l'élan sexuel de toute une génération. C'est-à-dire que toutes ces filles, j'en fais partie, qui ont été sous contraceptif très rapidement, entre 13, 14, 15, 16 ans et jusqu'à 30 ans, c'est-à-dire au premier désir d'enfant, souvent elles découvrent en fait leur libido quand elles arrêtent la pilule après l'avoir prise pendant 10 ans. Et comme elles n'ont jamais connu vraiment leur sexualité sans ça, elles ne savaient pas. Et elles se rendent compte en arrêtant la pilule qu'en fait, elles ont perdu 10 années de libido et de désir sexuel naturel qui était effectivement bridé par les hormones. C'est pas le cas de tout le monde, mais c'est le cas aujourd'hui de beaucoup de femmes. Mmh. Et ça devrait questionner notre société sur la place qu'on laisse effectivement au désir des femmes.
Au nom de la facilité quand même.
Effectivement, alors comme je l'explique dans mon livre...
C'était quand même facile, ce qui permettait de reléguer la question de la contraception finalement.
Eh ben, c'était la solution miracle, c'était génial, sauf qu'on ne savait pas tout ce qu'on fait aujourd'hui sur les hormones de synthèse et qu'on est en train de comprendre que voilà, si on peut éviter aujourd'hui d'exposer, vous n'allez pas de vous-même vous exposer à des pesticides. Bon, et ben c'est la même chose avec la pilule, malheureusement, forcément ça allait venir sur le tapis un jour ou l'autre. Maintenant le problème c'est effectivement les alternatives. On a tellement cru que c'était une méthode miracle, on n'a pas réfléchi, on n'a pas écouté les femmes non plus, et du coup aujourd'hui on se retrouve avec une génération qui ne veut plus d'hormones et pas beaucoup de solutions. C'est-à-dire qu'il y a le préservatif, le diaphragme, ces méthodes naturelles qui permettent de se passer la moitié du mois du préservatif ou autre. Mais au niveau, pour revenir sur le fondement scientifique concernant les méthodes naturelles, c'est quand même un gros sujet. Effectivement, c'est une idée reçue de croire que toutes les méthodes naturelles ne sont pas fiables. Il y a des méthodes naturelles comme la syntothermie ou Creighton que je cite dans mon livre. Moi, j'ai regardé toute la littérature scientifique à l'appui. Les études montrent que ce sont des méthodes fiables si elles sont parfaitement faites. C'est-à-dire qu'il faut être formé. C'est-à-dire que quand on a entendu là récemment l'application, vous savez, l'application Natural Cycle, il y a eu 37 grossesses non désirées en Suède. Faut comprendre que c'est pas en allant rentrer vos dates de règles sur une petite application internet que vous allez faire une méthode naturelle. Rien à voir. Une méthode naturelle, ça demande d'être bien formé, ça demande de la rigueur, et en échange de ça, vous n'aurez aucun effet secondaire et une efficacité contraceptive haute. Mais il faut s'investir effectivement beaucoup plus qu'en prenant la pilule.
Exactement. Et je rajouterais même, ça pourrait en étonner certains, que ça fait partie de l'éducation à la sexualité. Ça fait partie de l'éducation à la sexualité des jeunes filles et des jeunes femmes. Parce que lorsque je rabâche souvent les oreilles des auditeurs avec l'érotisation du vagin, ça, par exemple, ça en fait partie. Les méthodes naturelles, si donc ça fait partie d'un apprentissage comme l'éducation à la sexualité, si on apprend à nos jeunes filles, à nos jeunes femmes à se réapproprier leur corps, à découvrir leur corps, à comprendre pourquoi leurs pertes sont de telle consistance, de telle couleur, à tel moment du cycle, c'est juste l'épanouissement. C'est le début de l'épanouissement.
Bien, il y a beaucoup de réactions. On va vous donner la parole dans un instant. Si vous avez des questions à poser, profitez-en. Hein, 01 53 48 3000, le standard est à votre disposition. 01 53 48 3000. Et puis, j'aimerais quand même que Nadia, vous nous exposiez tout à l'heure quand même les méthodes qui existent. S'il y en a des nouvelles, s'il y en a qui promettent, 01 53 48 3000.
Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Alors, on a des réactions même par mail qui arrivent à l'émission. Cette émission s'appelle « Arrêt de la contraception hormonale, régression ou véritable révolution sexuelle ». Sophia nous envoie un mail et elle nous dit « Merci d'avoir invité Madame de Busca. Il y a un mois, elle m'a libérée de la pilule. Je revis depuis 2 mois. Je retrouve mon corps et mes sensations. Au fond, je n'ai jamais vraiment supporté la contraception hormonale et j'en ai pris conscience grâce à votre émission. Je vous en remercie. Sophia, donc votre livre s'appelle « J'arrête la pilule » aux éditions Les Liens qui libère. Oui, dites-moi Nadia.
Oui, non, je disais c'est bien, il faut citer aussi les deux sites.
Alors, il y a deux sites santé, ça se serait.fr et le deuxième c'est...
J'arrête ma pilule. Alors c'est super ce qu'a fait Sabrina parce que du coup, les personnes qui n'ont pas la possibilité d'acheter le livre ont l'essentiel des informations, en tout cas une grande partie des informations sur le site.
C'est pas une émission anti-pilule qu'on fait ce matin, c'est ça qu'on est aussi en train d'expliquer. Hein.
Oui, c'est pour ça que je dis aux extrémistes idéologiques ou idéologistes de s'abstenir, parce que c'est pas le débat, il est pas là du tout, on n'est pas là-dedans. On est tout simplement, justement, dans ce qu'est réellement le féminisme, c'est-à-dire donner la possibilité aux femmes de faire des choix en connaissance de cause. C'est ça la liberté. Tout simplement.
Et en connaissance de cause, et surtout, que, comme le disait l'auditrice qui a témoigné par mail, c'est en fait de conquérir en tant que femme de nouveaux droits, où en fait on se rend compte des fois un petit peu hébété. Moi, Nadia et plein d'autres femmes, souvent on a ça dans notre parcours de femme féministe, on a l'impression qu'on est au top du féminisme et on se rend compte qu'on est souvent rattrapé par son époque. Moi, quand je me suis aperçue qu'il y avait autant de femmes qui en fait souffraient silencieusement de leur contraception hormonale, mais n'en parlaient pas parce qu'elles considéraient qu'il n'y avait pas d'autre choix et pas d'autre solution, ça me fait penser à toutes ces femmes qui souffraient avant l'IVG, avant que l'IVG soit légal. C'est la même chose. C'est-à-dire que les souffrances des femmes, généralement, on en parle rapidement entre nous et pas ailleurs. Et du coup, c'est invisibilisé. C'est comme avec Balance ton port. Dès qu'il y en a une qui commence à raconter, d'un coup, il y a une libération de la parole derrière. Et je pense que c'est ça qui est en train de se passer avec la pilule.
Bien, 01 53 48 3000. On aimerait bien aussi avoir votre retour d'expérience et profitez-en pour poser des questions. Est-ce qu'on peut arrêter la pilule du jour au lendemain ou il y a une méthodologie pour arrêter la pilule ?
Alors moi dans mon livre je parle de deux choses, je parle de cette façon d'arrêter la pilule de manière progressive que j'ai appelée le sevrage progressif de la pilule, parce qu'il y a des femmes, j'en ai fait partie, qui malheureusement vivent très mal l'arrêt de la pilule brutale. C'est-à-dire que, alors on n'a aucune étude par contre sur le sujet, il faut bien préciser, les médecins entre eux que j'ai consultés ne sont pas d'accord. Il y a des médecins pour qui arrêter la pilule d'un coup c'est la seule solution, et il y en a qui trouvent que c'est plutôt bien d'arrêter, vous savez c'est comme quand on prend un médicament très très fort à l'hôpital, type morphine, on fait ce qu'on appelle un sevrage morphinique, c'est-à-dire vraiment diminuer les doses progressivement pour que le corps ça lui fasse pas un effet yo-yo comme ça d'un coup. Donc il y a des femmes qui d'elles-mêmes se sont mises à faire ça avec la pilule, j'en ai fait partie, et moi d'après mon sondage sur le peu de femmes qui font ça, ça leur permet pour beaucoup d'atténuer les effets rebonds de l'arrêt de la pilule qui sont souvent de l'acné, des troubles un petit peu on a les humeurs yo-yo parce que les hormones se re-régulent d'un coup. Donc il y a cette solution qui existe, mais on est des pionniers en la matière et il n'y a aucune étude sur le sujet.
Ouais, c'est là où le bât blesse. Effectivement, il n'y a aucune étude sur le sujet, ce qui fait que nous, professionnels de santé, on est réellement démunis face à ça, c'est-à-dire que concrètement, sur le terrain, on fait arrêter les contraceptifs hormonaux du jour au lendemain. On passe d'une contraception à une autre. Alors bien sûr, en expliquant les fenêtres de fertilité, surtout si la femme ne veut pas tomber enceinte, en expliquant comment reprendre ou comment faire pour poursuivre avec un autre moyen de contraception, mais ce que nous dit là Sabrina, c'est quelque chose auquel on n'est absolument pas ni initié ni informé, et il y a aucune étude qui s'est penchée sur la question.
Alors j'aimerais qu'on accueille Aminata là, qui voudrait partager son expérience avec nous tous. Bienvenue Aminata.
Merci. Bonjour.
Bonjour Aminata.
Alors, Moi, je voulais partager mon expérience, en fait. J'ai pris... Enfin, je ne prenais aucun contraceptif étant plus jeune. Donc, je me suis mariée, j'ai continué comme ça. Par contre, j'en ai pris un à la naissance de mon premier fils. Du coup, j'ai pris la facilité, j'ai pris l'implant. Et du coup, je me suis retrouvée... en fait, je ne me reconnaissais pas. J'avais des sauts d'humeur, j'étais aigrie, j'étais énorme. Et je l'ai retiré au bout de un an, parce que la gynéco me disait de le garder, parce que je voulais pas prendre des pilules, et que, en gros, elle voulait pas que je tombe enceinte, donc j'ai écouté gentiment, parce que je désirais pas également avoir d'autres enfants. Du coup, au retrait de mon implant, je me suis rendu compte que j'étais redevenue moi-même, en fait. Et ça m'avait surpris. Et je me suis dit, mais... En fait, il suffit de se découvrir et d'aller en profondeur, ce que je faisais déjà avant avec mon mari, bien sûr, parce que sinon c'est pas possible. Et du coup, je l'ai retiré, et je me suis sentie nettement mieux. Du coup, je me suis posé des questions et c'est à partir de ce moment-là seulement que je me suis mis à lire la notice de l'implant que j'avais mis. Et là, j'ai retrouvé tous les symptômes que j'avais et que je traînais et qu'on me disait, enfin, on me mettait sous Eucito, là, je sais plus comment ça s'appelle, les trucs dépressifs. Enfin, j'étais pas dépressif, mais j'étais limite.
Les phytoses.
À la limite. Mmh. Oui, voilà, les phytoses, j'étais à la limite de péter un cap, quoi, clairement. C'est marrant d'en parler parce que, en y réfléchissant, je me dis, en fait, j'aurais continué dans ce truc-là, ça aurait été un cercle vicieux, en fait. Et je pense que c'est le fait de l'avoir tiré qui m'a permis de me rendre compte que je retrouvais mon état d'avant. Donc du coup j'ai continué comme ça et on s'était mis d'accord avec monsieur et finalement au fur et à mesure j'apprenais à découvrir les sensations de mon corps et j'ai réussi à avoir mon deuxième comme ça et ma troisième comme ça au bon moment et je savais, c'est bizarre parce que je savais quand je voulais en fait. Donc du coup je me souviens pour ma troisième j'ai dit ah bah je suis enceinte. Puis c'était marrant parce qu'au résultat c'était exactement ça et finalement, on se rend compte qu'on se connaît vraiment de l'intérieur par la suite, quoi.
Oui, c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'on nous enjoint à être à l'écoute. On est dans l'ère de la communication, d'être à l'écoute des autres, d'être super open. On n'est même pas à l'écoute de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on nous apprend même pas à nous écouter nous-mêmes. Donc,
En fait, moi, je me souviens qu'en consultation, quand je disais que je prenais rien, à la limite, des fois, je mentais, je disais que je prenais la pilule pour qu'elle me laisse tranquille parce que je me faisais passer un savon, en fait.
Alors, ça, c'est assez ouais. Ce dont elle témoigne. Alors, caractéristique. Moi, dans mon sondage, c'est ce qui est le plus ressorti. Mmh. Alors, déjà, les termes qu'employaient les femmes, c'était étonnant parce qu'elle disait j'arrête la pilule, je me sens libérée, ce qui est totalement paradoxal vu qu'il y a 60 ans les femmes disaient c'est en prenant la pilule que je me libère, donc c'est rigolo de noter ça. Mais en revanche effectivement j'ai vu beaucoup de femmes qui, c'est quand même fou, c'est comme si elles étaient presque en couple avec leur gynéco et qu'elles devaient leur cacher, leur mentir. Vous rendez compte à quel point les femmes ont intégré que la pilule c'est bien et si elles-mêmes elles ne sont pas bien avec les hormones, qui sont-elles pour venir remettre en question tout ça? Et comme elles sentent cette pression sociétale, cette pression médicale. Moi, j'ai énormément de femmes et les témoignages sont en ligne sur j'arrête-la-pilule.fr. Vous pouvez vraiment aller les lire. Je les ai copiés-collés, hein, je ne les ai pas modifiés. C'est ce qui est le plus ressorti du sondage. C'est vraiment, moi, j'en ai marre de quand je demande une contraception sans hormones, qu'on me renvoie dans les cordes ou que j'ai presque honte, que je dois demander ça à limite à mi-mot parce que déjà de un, on ne m'écoute pas, on ne me croit pas et de deux, ben, on me prend pour une folle parce que voilà, en gros, je suis rétrograde parce que je ne veux pas d'hormones. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il va vraiment falloir changer ce genre de comportement.
Oui, alors vous savez, ça va aussi plus loin, c'est-à-dire que on évite même, il y a même certaines consignes de ne pas donner les effets secondaires qui sont notifiés dans les notices sous prétexte que ça mettrait des idées dans la tête des femmes. Vous vous rendez compte? L'infantilisation, justement, des femmes, c'est quand même gravissime. Hein.
Ça n'existe pas avec d'autres médicaments, même si de manière générale, en France, on n'est pas très... Enfin, la place du patient dans le processus de soins est bien moins présente que dans d'autres pays, mais on a effectivement un problème en France là-dessus, et de toute façon, les femmes qui ont dénoncé récemment les violences gynécologiques obstétricales, ça colle complètement à tout ce sujet-là. C'est un manque d'écoute des patients. Comme vous le disiez, Nadia, c'est inacceptable en soi, on devrait toujours les écouter.
Mais en fait, on ne les écoute pas, on nous impose les choses. C'est comme ça et pas autrement.
Surtout si c'était vu comme un progrès, comme la pilule. C'est très compliqué de sortir de ça et d'oser dire bah oui, mais moi ça convient visiblement à tout le monde sauf à moi. Sauf qu'en fait, avec mon livre et avec l'impact médiatique qui en a suivi, on se rend compte qu'en fait, le sauf moi, on est plutôt nombreuses en fait finalement à être là-dedans. Et moi, ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre, c'est que c'est pas un phénomène mineur. De même que les violences gynécologiques lors de l'accouchement ou autre, on n'en parlait pas jusqu'à il y a peu, parce qu'en fait, les femmes trouvaient ça normal. Eh bien aujourd'hui, les femmes vont peut-être envisager un futur différent en se disant ah ben en fait ça serait peut-être possible de pas souffrir de sa contraception, ah bon ben alors moi là je suis d'accord, je suis partante et allons-y. Mais tant qu'on dit pas ça les témoignages ne suivent pas.
Ceci dit, concernant, on en fera une émission, hein, mais concernant les violences...
Je crois que c'est un des premiers sujets que vous m'avez proposé quand on s'est rencontrés.
Elle fait partie des oui, donc ouais. On en a parlé ensemble, mais il faut savoir que Sabrina fait partie des premières à en avoir parlé. Hein. Donc maintenant, ça a été repris effectivement au niveau même du ministère. C'est pour vous dire qu'on a besoin de lanceurs d'alerte comme Sabrina.
Merci en tout cas Aminata de nous avoir rejoints et de la confiance que vous nous témoignez. Nadia, alors maintenant, ceci étant dit, quelles sont les alternatives, je mets entre guillemets, naturelles qui existent aujourd'hui et les méthodes dites d'avenir?
Alors, comme alternative, rappelez-vous, on a parlé des contraceptifs hormonaux. Donc, il y a effectivement d'autres alternatives qui ne sont pas hormonales, comme par exemple le stérilet au cuivre. Il y a des patientes qui ont aussi des symptômes sous stérilet au cuivre, hein, notamment des saignements plus abondants, qui se retrouvent avec des règles, enfin des périodes de règles plus importantes, et d'autres symptômes. Donc, mais ça peut être une alternative pour des femmes qui ne se sentent pas encore prêtes à tester ou à être initiées à une méthode naturelle. Donc c'est important de le dire aussi. Ensuite, effectivement, nous avons des méthodes naturelles comme notamment la symptothermie et qui est une méthode qui est très intéressante parce qu'en fait, elle invite, comme on le dit depuis le début de l'émission, la patiente à être beaucoup plus à l'écoute de son fonctionnement. Donc on va lui demander de prendre sa température et on va lui demander également d'observer la consistance de ses glaires et éventuellement, mais ce n'est pas une obligation, de pouvoir même s'examiner au niveau du col. Donc ça paraît, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais ça paraît comme ça bizarre pour certaines, de dire ah non mais comment ça les glaires, déjà le terme peut sembler
c'est glamour au possible.
D'ailleurs le concepteur de cette méthode que nous avons déjà invité,
oui,
parle lui d'élixir, donc il ne parle pas de glaire. Parce que vous savez, les mots effectivement ont un impact. Hein. Oui, non, mais c'est indéniablement, ça a un impact.
Il dit élixir, parce que pour préciser, je me permets Nadia, parce
oui, bien sûr.
Du coup, c'est cette glaire, c'est ce qui se trouve dans le col de l'utérus, donc voilà. Avant l'entrée de l'utérus, et qui donne de la force aux spermatozoïdes quand ils s'y mettent pour poursuivre leur course et aller féconder l'ovule. Mmh. Donc, c'est de l'élixir de vie pour les spermatozoïdes.
Exactement. Donc oui, ça change la donne, la façon dont on présente les choses change la donne. Mais Sabrina le dit bien dans son livre, c'est pas une méthode comme ça que vous allez lire rapidement au coin d'une table et puis vous mettre à pratiquer. Ça demande effectivement un apprentissage comme beaucoup de choses dans la vie. Donc il y a aucun. Alors si vous avez un praticien, une sage-femme ou un gynéco ou une gynéco qui sont adeptes de cette pratique-là et qui savent vous l'expliquer, alors il n'y a pas de souci. En revanche, si ce n'est pas le cas, il y a des conseillères qui sont formées.
Qui ne veulent pas témoigner à l'antenne parce qu'elles ont peur, mais qui sont formées.
Non. Alors, on aura la possibilité d'avoir une conseillère très prochainement.
Ça demande un apprentissage, en tout cas.
Pour pouvoir nous expliquer vraiment dans le détail, parce que là, ça demande une émission entière. Et c'est pas le tout, voilà, de dénoncer. On sait les contraceptifs hormonaux si on ne donne pas d'alternative à côté. Donc effectivement, ça, on donnera l'opportunité à une conseillère de nous expliquer cette méthode-là dans le détail lors d'une émission. Parce que, je vous dis, c'est vraiment la porte d'entrée. C'est un apprentissage sexuel, hein, c'est mine de rien. Parce que le fait de pouvoir donner cette opportunité à cette femme d'aller découvrir cette zone de son corps qui est peu nommée, peu valorisée, qui est tout simplement la zone génitale, hein, donc son bassin, sa vulve, son vagin, de pouvoir observer les changements, c'est juste fondamental.
Et moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que quand on voit tout le mouvement qu'il y a autour aujourd'hui de l'accouchement naturel, c'est-à-dire le fait que les femmes se sentent confisquer leur accouchement par les médecins très interventionnistes, aujourd'hui, les femmes, on les fait accoucher sur le dos, etc., et ça entraîne des conséquences qui font que, du coup, elles ont plus de mal à accoucher et que, du coup, il y a des interventions derrière, etc. Aujourd'hui, les femmes, le nouveau féminisme est en train de nous dire stop à cette surmédicalisation du début à la fin de la vie de la femme. On médicalise la contraception, on médicalise l'accouchement, on médicalise la ménopause. C'est presque comme si on faisait croire, c'est ce que je dis à la fin du livre, que chaque processus naturel chez la femme qui se passe à la base très bien pour la plupart des femmes avait systématiquement besoin d'être contrôlé, encadré médicalement avec des chiffres froids, etc. Aujourd'hui, les femmes, elles sont en train de nous dire nous, on veut plus de ça. Et ces méthodes naturelles, très pragmatiquement, ce sont juste aujourd'hui, avec le préservatif et autres, les seuls moyens d'avoir une contraception efficace sans effet secondaire.
Sabrina, mais c'est un business, il y a de l'argent, il y a des laboratoires. En tout cas, je rappelle le titre de votre livre, J'arrête la pilule. L'éditeur, c'est Les Liens qui Libèrent. Il y a un site autour du livre. Et puis, vous avez votre blog de santé, votre site de santé qui s'appelle Ça se saurait.
Il y a des laboratoires, mais c'est nous les consommateurs. Faut pas oublier. Donc, il faut remettre.
Un business, c'est d'abord un business.
Oui, d'accord. Mais il faut remettre justement le pouvoir du bon côté.
Merci Sabrina d'avoir été avec nous.
Avec grand plaisir Philippe, à bientôt.
À bientôt Nadia, à bientôt. Nadia est au Salon du Livre, allez la voir au Maghreb Orient du Livre. C'est dimanche, une conférence, elle dédicace son livre. C'est la possibilité pour vous qui l'a suivi depuis des années de la rencontrer. Merci Nadia,
et à bientôt. Merci beaucoup à Sabrina et puis à très vite.
Et demain nous parlerons des nanoparticules.